Merci beaucoup à vous quatre. C'est un vrai merci parce qu'on remercie toujours après les exposés. Mais en lisant vos textes, mon accent parle par soi, donc j'étais très concernée, très touchée. Et c'est très bien d'être là avec vous ce soir. J'ai hâte d'écouter aussi la salle qui va se manifester, ceux qui ont connu l'exil et ceux qui n'ont pas connu. Difficile de ne pas connaître l'exil avec tout ce que vous avez apporté justement, nous sommes tous concernés. Nous avons retrouvé dans vos exposés la référence à la perte, au manque, à l'impossible. Donc nous sommes vraiment habités par ça, indépendants d'avoir bougé de notre chambre. Nous sommes tous très concernés par ça. Je pense que vous avez aussi bien réussi, malgré la difficulté, c'est vrai que ce n'était pas évident, d'apporter dans la réflexion la ségrégation. Et ces changements de l'exil doré à le statut du réfugié, avec toute la charge qui implique ces signifiants depuis dans notre société, donc toutes ces difficultés-là. Je suis particulièrement touchée par la question de la langue, ce qui concerne la question de l'exil. Parce que ça a été dit, c'est bien ça, la langue c'est ce qu'on ne quitte pas quand on part. La langue vient, elle est avec nous. Elle nous suit, à quelques exceptions près, parce que j'ai pu déjà entendre des patients qui ont connu cette expérience de vivre dans une autre langue, qui pour des raisons très particulières, ont essayé d'effacer ces passés aussi concernant la langue. Mais ça reste quand même très exceptionnel. Nous avons enregistré récemment une vidéo, justement avec Barbara Cassan, à propos de notre première convention européenne qui concerne l'exil. Donc c'est très bien, ça tombe très bien qu'on parle de tout ça aussi aujourd'hui. Et cette vidéo va être début mai déjà diffusée et on va tous pouvoir l'écouter. C'est très intéressant cet échange avec elle. Et elle disait justement à propos de l'accent, que l'accent c'est la langue sous la langue. Donc c'est cette notre langue maternelle sous la langue de l'autre. C'est une nouvelle l'autre qui parlait et qui nous avons tous et qui reste. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau et très juste. Parce que voilà un truc qui ne perd pas. Vous avez entendu l'éventail d'accents autour de cette table. Je vais passer à quelques questions très rapidement. On va être les plus brefs possibles pour passer la parole. Pour Patricia, j'aimerais que tu reviennes un peu sur la question de l'idiome, la langue et la langue. Je me suis plusieurs fois déjà posé la question sur la question tu fais une analyse dans une autre langue. C'est quelque chose que nous connaissons. Donc j'ai mon idée, mais ce n'est pas mon idée que je veux. Je vais entendre ce que tu as à dire, ce que vous avez à dire, peut-être même vous. Et en lisant mon texte, donc il y a l'idiome, la langue et la langue dans un seul mot. C'est la langue qui n'est pas la langue maternelle, c'est la langue de l'inconscient. Et je pense avoir compris que c'est ça qui autorise qu'on puisse faire une analyse dans une autre langue, par exemple. Mais ce n'est pas si évident que ça, parce que nous, on reçoit beaucoup de demandes pour parler dans la langue maternelle. J'ai beaucoup de patients qui, le début du choix, l'adresse, c'est cet ordre-là. Donc, si tu peux nous parler un peu plus de la question de l'idiome et de la langue, à ce moment-là, tu comprends. Sidi, c'est quelque chose tout à fait au début de ton texte, quand tu parles de l'exil sans retour possible, comme les seuls véritables. Si tu peux commenter un peu plus sur toute cette question. Louise, j'ai beaucoup apprécié, parmi d'autres choses dans ton texte, la question de l'exil interne. C'est quelque chose que je n'avais pas vraiment pensé, que nous avons tellement connu un peu partout, mais en Amérique latine énormément.
On utilise au Brésil la notion ?
Non, mais c'est très juste, ça correspond beaucoup à notre...
L'exil intérieur.
Interne.
Dans le pays.
Intérieur, c'est
vrai. Qui c'est dans ces sens-là, tu entends de la même façon, j'allais te demander justement si c'est l'exil interne, celui que ça toucherait à les structures, ou c'est l'exil interne.
Parfois, c'est utilisé comme interne, parfois comme intérieur, mais ça renvoie à ça.
D'accord, ok. Je voulais. Tu demandais, tu commentais surtout, parce que c'était en espagnol et je trouvais ça aussi très bien, quand tu dis dans ton texte, cela démontre qu'il y a quelque chose d'incompréhensible dans l'affect d'exil de l'autre, avec un grand A. Si tu peux commenter un peu autour de cette incompréhensible de l'affect d'exil de l'autre. Et en rapport à ses grands-pères, l'exemple que tu donnes du grand-père, la difficulté avec la... les petits-enfants qui ne parlent pas sa langue, ça m'a fait penser à quelque chose aussi, plus pour que vous puissiez commenter. Autant que c'est important souvent pour les exilés, justement, d'y transmettre la langue maternelle à ses enfants. Il y a quelque chose de cet ordre-là, qui ce n'est pas une règle dans l'absolu, mais que c'est très, très, très fréquent, je pense que c'est la majorité des cas.
Non, je ne suis pas d'accord.
Parfois même cette langue-là, parce qu'elle est marquée par une autre histoire. Mais quand je pense, si je pense ici, autour de cette table, que je connais un peu quelques enfants concernés par vos histoires, ils parlent vos langues maternelles. Non, tes enfants ne parlent pas l'espagnol ? Ah oui. D'accord. Ah oui, d'accord.
Mais ce n'est pas la langue de la maison, ça.
Non, mais quand la mère ne parle pas la langue maternelle,
c'est
mon cas.
C'est intéressant, oui. J'avais pas pensé. En tant que mère, j'avais pas pensé.
Il y a aussi des réactions.
Mais il y a aussi d'autres raisons.
Il y a des pères exilés avec des enfants.
Il y a d'autres raisons. Il y a justement ce refus.
Les pères sont exilés de cette question. Mais bon, quoi. Ça peut arriver. Non, une dernière, tout dernière, tout simplement, qui se sent pas exilé pour les questions. C'était tout simplement un rapport, j'aimerais que tu, parce que j'ai trouvé ça très intéressant, la question du corps vivant,
ouais.
La différence que tu fais du corps vivant qui n'est pas symbolique, qui n'est pas imaginaire, on peut supposer son corps réel quand même, mais si tu peux parler un peu plus de ça.
Je voudrais poser une question à Sylvie Escoparé avant donc de passer la parole au public. Sylvie, tu as très bien montré les liens entre ségrégation et exil, tout en affirmant que ces liens ne sont pas directs. Et il me semble, si j'ai bien compris, tu finis ton exposé avec la phrase suivante, l'exil produit des nouvelles formes de ségrégation. Quelles seraient donc les particularités de ces nouvelles formes de ségrégation ? Pourquoi sont-elles différentes de la ségrégation qui fait partie de l'histoire de l'humanité ?
Ouf.
Vous voulez qu'on passe
à répondre? Oui, donc on reprend les histoires de la transmission de la langue. Je crois que c'est une dimension subjective et une question des différences des sexes. Tout ça. c'est pas pareil, en tout cas, c'est mon expérience. Sidi me la confirme. C'est la question, ça confirme la question de la langue maternelle. C'est pas pareil quand il y a la mère qui transmet que quand c'est le père qui transmet, ça donne lieu à des choses différentes. Donc, cela dit, je suis d'accord avec toi que la question de l'exil, on ne peut pas la résumer à la question de l'épreuve de la langue, ce que tu dis. Et cliniquement, je crois, c'est mon expérience, peut-être il y en a d'autres, mais je crois que les expériences que j'ai eues, ça compte, il y a plusieurs patients qui n'ont jamais évoqué le problème, jamais, comme étant un problème, le problème d'avoir été exilé, le rapport avec la langue maternelle, et ne parlons pas avec les moyens d'aujourd'hui, il y a des gens qui passent 10 heures par jour dans la langue maternelle, à lire Internet, à lire les journaux dans la langue d'origine. Donc ça change beaucoup, la question de la langue, l'exil aujourd'hui. La question de l'incompréhensible, de l'affect de l'autre concernant l'exilé, je me suis cassé moi-même la tête souvent à demander aux Brésiliens qu'ils m'expliquent qu'est-ce que ça veut dire les soldats.
Ça pas mal de
résumé. Qu'est-ce
que ça veut dire? Moi, j'ai pas entendu. Soldats. C'est quelque chose d'inexplicable. Ouais. Donc, je me suis dit que probablement Sylvie ne connaît pas les soldats. Donc, il y a que toi. Donc, c'est ça la question. C'est ça la question de l'incompréhensible. C'est par rapport à ça. Et puis, bon, je vois que c'est important qu'on tienne compte aussi des affects positifs. C'est pas toujours la déchirure, l'épreuve.
C'est pour ça qu'on reste.
Bien, donc très rapidement, l'exil comme le sans retour possible. Il me semble en effet qu'on utilise un petit peu trop rapidement le terme d'exil pour indiquer le fait que quelqu'un vit en dehors de son pays d'origine. Ce n'est pas le sentiment que j'ai, y compris du fait de mon expérience. J'ai vécu en France pendant 7 ans à peu près, jusqu'à au moment où j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Jusqu'à ce moment-là, il était évident pour moi qu'à la fin de ma thèse, je rentrais au Mali. Et je n'avais absolument pas le sentiment d'être un exilé. Il y avait une communauté d'étudiants maliens à Toulouse. Je parlais avec eux, ceux qui étaient de ma région, ma langue maternelle. J'étais en lien avec ma famille, sans aucun problème. Ce n'est que par après, à partir du moment où les raisons internes à ma vie personnelle, que quelque chose qui a eu une rupture, de certaine manière, avec ma famille, que j'ai commencé à avoir une forme de sentiment d'exil. Mais même là, ce n'était pas du tout, me semble-t-il, de l'exil, puisque j'avais toujours mon passeport malien, je pouvais rentrer au Mali quand je voulais, j'avais des compatriotes à Paris ou le reste de la France que je fréquentais. Ça ne posait absolument aucun problème. Et dans mon analyse, je n'avais pas du tout le problème de la langue, puisque mon analyste non plus n'avait pas le français comme langue maternelle. Donc, il y avait une sorte de langue transitionnelle. On parlait à la Winnicott entre mon analyste et moi, et donc les choses se passaient. Je n'ai eu véritablement véritablement le sentiment de l'exil que tout récemment. Il y a 2 ans, je me retrouvais, j'étais allé, excusez le côté très personnel, j'étais allé au chevet de mon petit frère dans un hôpital à New York. J'y suis allé avec mon passeport français et au moment de vouloir faire retourner son corps, il y avait une impossibilité de rentrer au Mali, de New York, parce que j'avais un passeport français. Donc, je ne pouvais pas rentrer dans mon pays d'origine, parce que c'est là que j'ai eu véritablement le sentiment de vie. Ça n'a pas duré très longtemps, mais je crois que c'est au moment où, vraiment, on ne peut pas rentrer chez soi qu'il y a véritablement un exil. Tant qu'il y a un exil. Voilà, donc, après, il y a toute la question de ce qu'on a appelé jadis les sociologues de l'éducation, la double absence, etc. On ne peut pas être dans un endroit, mais etc. Ça conduirait très loin. Alors, pour la question de l'INA, l'exil produit de nouvelles formes de ségrégation. Alors, pourquoi je dis ça? Il me semble que le terme de ségrégation, y compris entre nous, renvoie à deux choses qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle ségrégation et qui, au fond, est en réalité une exclusion. On est ségrégué, c'est-à-dire qu'en raison de sa manière d'être, de ses origines, de sa langue, etc., il y a une impossibilité d'être reçu dans le pays d'accueil. Ça, c'est une guise de la ségrégation. Et il y a ce que Lacan, lui, appelle la ségrégation, qui est tout à fait autre chose, qui est cette modalité de concentration, de rassemblement autour d'un mode de jouissance ou autour de signifiants maîtres. Voilà, il y a ce premier point. Ensuite, si j'ai dans mon effort de lier exil et ségrégation, il me semble qu'il y a la ségrégation qui est subie par un certain nombre de sujets, et puis il y a les phénomènes qu'on a pu appeler d'autoségrégation, et qui que l'exil conduit à la recherche des mêmes, c'est-à-dire de ceux qui ont perdu les mêmes choses que soi, et ça va constituer, ça va produire des formes de communautés qui sont rassemblées autour de religions, par exemple, surtout cette époque de globalisation et de crispation des identités. Les gens se rassemblent autour de ce qui a été laissé ou de ce qui est stigmatisant. Et ce sont des nouvelles formes de ségrégation qui relèvent, au fond, d'une forme d'autoségrégation. On se retrouve entre soi pour ne pas être sous le coup de l'exclusion par les autres. Voilà, c'est l'idée que je me fais de cette ségrégation qui est la conséquence de l'exil. L'exil qui promeut des formes de ségrégation. Mais je crois que le terme de ségrégation, il faut faire attention, ça renvoie à des choses extrêmement différentes selon qu'on se fie, selon qu'on se repère à partir de la notion globale courante de ségrégation, ou bien qu'on essaie de tirer de la ségrégation ce que Lacan essaie de promouvoir. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Donc, faire une analyse dans une autre langue. Je crois que avant, disons qu'une analyse freudienne qui est basée sur l'interprétation et sur autrement que une analyse lacanienne, je crois que c'est ce qui a donné l'idée qu'il fallait faire une analyse dans sa langue maternelle. Il y a Boxbaum qui était une analyste anglaise qui avait une analyse de jeune fille et qui dit qu'il leur avait fallu passer par leur langue maternelle pour pouvoir, disons, dépasser et résoudre leurs questions. Or, là, moi, j'ai pris comme citation tout à l'heure un texte de Serge Côté, c'est un texte qui s'appelle « Éloge de l'analyse en langue étrangère », parce qu'il dit qu'il y a un rapport au réel dans la mesure où la langue étrangère est plus distancée par rapport à elle, le rapport au réel de la langue est beaucoup plus présent. Donc je crois que c'est en fonction de... Voilà, je crois que c'est...
Oui, bon, très rapidement, pour qu'on puisse parler à la salle. Oui, les corps vivants... C'est vrai que dans la clinique de l'exil, en tout cas, on entend souvent la phrase qui disent, des personnes disent, je suis déjà mort. D'ailleurs, j'ai trouvé dans les journaux des Lyon, des Wilfrid Bion, qui dit, je suis mort le 8 août 1918. En plus, que c'est lui qui, bon, Lacan va prendre comme référence par rapport à la question des groupes, des petits groupes, tout ça en Angleterre. J'ai trouvé ça intéressant et comment cette expérience des morts pour certaines personnes qui ont dû quitter l'exil est présente par rapport à un corps vivant encore. C'est-à-dire qu'ils se déplacent et malgré tout, ils ont déjà l'impression d'être morts, mais le corps, il continue à vivre. Donc il y a tout ça, il y a ces références qui, cliniquement, voilà, je voulais faire allusion à ça. Et comment Foucault avait repris la question par rapport à la biopolitique et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on voit qu'il y a une tension par rapport à ça, c'est-à-dire que faire vivre une population dans un territoire implique de laisser mourir d'autres personnes en dehors de la Méditerranée. Et que le bien-vivre de l'Europe est possible grâce à qu'on laisse mourir des gens de l'autre côté de l'Europe. Donc il y a la tension permanente biopolitique de ces questions des corps. Et je pense que Lacan, il avait bien compris l'affaire quand il parle des deux, entre deux morts et tout ça, et que la question aussi par rapport à lui-même exclue de sa propre école, il a dit il faut penser la question des groupes et de autre façon pour éviter la ségrégation. Et je pense que voilà, il y a tout ce qui est impliqué dans la question d'un corps vivant. Voilà.
À vous.
Oui, non, c'est.
Voilà.
Oui, non, c'est par rapport à cette histoire du corps vivant, c'est toujours c'est comme l'histoire de la langue. Effectivement, bon, ça, je crois que c'était très juste de dire ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je vois bien, il y a des gens qui veulent parler dans leur langue, d'autres qui veulent parler en français, etc. Bon, c'est éminemment variable. En plus, ça dépend. Il faut quand même de temps en temps recourir à des mots comme ça ou là. Bon. Donc, cette histoire de. Alors, simplement, on a, là encore, c'est comme dans l'exil, il y a le bon exil, enfin, disons, il y a les aspects positifs de l'exil, et je crois que quand il parle de ségrégation, c'est pareil, Lacan. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, n'est-ce pas, bon, si on oppose la France et l'Angleterre, là, en Angleterre, ou dans les pays anglo-saxons, il y a les communautés. Ici, on essaye de faire qu'il n'y en ait pas, avec un succès moyen. Avec un succès moyen, mais enfin, on essaye ça. Bon, il faut dire que ça a fonctionné pendant pas mal de temps, et ça, même aujourd'hui, ça fait une différence. Il y a une différence qui reste aujourd'hui, malgré tout, avec des avantages et des inconvénients. Bon. Ce que je veux dire, c'est que la ségrégation, c'est une modalité de fonctionnement des groupes. Et on ne peut pas, rêver pas de ségrégation. Alors c'est sûr que. Et quand on il y a tout un discours politique.
C'est ça qu'il ne faut pas confondre avec l'exclusion ou la discrimination. C'est pas pareil.
Oui, c'est bien. Voilà, c'est ça.
Oui, tout à fait.
Et ça, je trouvais que c'est important de souligner ça. C'est pour ça que malheureusement, la mondialisation implique que chacun essaye de trouver autour de soi qu'ils imaginent à partager la même jouissance, n'est-ce pas ? Bon, qu'ils l'imaginent. Bon, alors il y a la jouissance de la langue qui est effectivement importante, etc. Au point qu'on refabrique des langues. Moi, je me souviens très bien, Pays Basque. espagnol, dans tout un endroit, on ne parlait pas basque. C'est pas vrai. Hein? Pas du tout. À San Sébastien, oui, mais à Bilbao, non. Toute la zone, là, on ne parlait pas. Et aujourd'hui, c'est très transformé. C'est une recréation. Je veux dire, il n'y a pas que l'hébreu. On parle de l'hébreu, mais il n'y a pas que l'hébreu. Il y a plein de langues, le breton qui ressurgit, etc. Donc, si vous voulez, cette espèce de fabrication des... Donc, c'est un petit peu... C'est ça le problème. C'est-à-dire, comment on traite avec ce problème auquel on a affaire, évidemment, dans la vie.
Oui, je vous remercie tous. Je suis un peu étonnée que vous soyez tous autour de la table, peut-être pas Patricia, qui est bilingue, au départ d'une autre langue. Hein, et que peut-être on aurait pu mixer un peu, parce que finalement, nous tous dans cette salle, je pense qu'on a tous vécu l'expérience de l'exil. Hein, et qu'à insister, on a tous vécu un exil intérieur, sans quoi, sans doute, on ne serait pas passé par la psychanalyse, et sans doute, on ne serait pas ici réunis. Alors, il y a des petites remarques. Louise, je te remercie d'avoir été très clinique, parce que peut-être qu'on peut parler ici qu'à partir surtout à partir de notre clinique. Une remarque à propos de Patricia, tu citais Serge Côté à propos de la langue dans laquelle on fait son analyse et finalement du rapport au réel. Est-ce que le rapport au réel finalement ne se dit jamais, ne se peut pas se dire, et que tous ces intraduisibles qu'on remarque dans toutes les langues, ça touche finalement l'intraduisible du rapport au réel et que ça n'a pas beaucoup d'importance. On essaye de le dire autrement, mais et chacun dans notre propre langue, on a, dans notre propre subjectivité, on a des intraduisibles qu'on essaye de traduire parfois par des mots qu'on emprunte à des langues étrangères. D'où le plus de la multiplicité des langues. Et je voulais rajouter, moi, ce qui est assez sensible dans ma clinique, où j'ai... plusieurs personnes qui n'ont pas le français comme langue maternelle, le passage d'une langue à l'autre. Certaines choses qui ne peuvent se dire que dans la langue qui n'est pas maternelle, justement. De même que, pour les gens absolument de langue française, enfin de langue maternelle du pays où ils vivent, et vous aurez tous remarqué ça, et dans votre clinique et dans votre vie personnelle peut-être, les mots d'une certaine violence, les mots de la haine peuvent parfois se dire plus facilement en langue étrangère que dans sa propre langue. Pareil pour les mots de l'amour, dans les deux sens. Donc il y a comme ça ces mots de l'intimité pour lesquels chacun, qu'il soit un exilé de l'intérieur ou un exilé de l'extérieur, je dirais, gagne à avoir recours à plusieurs langues. Alors, je ne sais pas si vous avez vu... Alors, il y a aussi le refus de la langue maternelle. On n'a pas parlé ici de l'expérience extrême de Wolfson, hein, de refus de l'intrusion que peut considérer la langue, que peut constituer la langue maternelle. Peut-être avez-vous vu ce film israélien qui s'appelle Synonyme, qui est pas formidable, mais qui est intéressant justement par le fait que ce sujet décide de quitter son pays et sa langue et de ne plus jamais parler l'hébreu. Et à quoi il a recours ? Au dictionnaire, et enfin, il choisit le français, et donc il a un français un peu particulier, un peu précieux, et tous les langues, tous les synonymes, dès qu'un mot lui vient à l'esprit, il peut décliner tous les synonymes. Simplement, la langue maternelle lui revient, malgré lui, dans une expérience de jouissance particulière, horrible, et là, on ne peut pas la chasser. Hein? Donc chasser la langue maternelle, elle revient au galop, malgré soi, dans des expériences de confrontation réelle. Donc je pense que c'est vraiment le rapport de chacun à sa langue. voilà. Et à ces langues, et quand on reçoit tous les analysants que l'on reçoit, il faut aussi, Sol le fait remarquer souvent, mais je suis bien d'accord avec elle pour ce point-là, il faut s'adapter, entre autres, il faut s'adapter à la langue du sujet que l'on reçoit, hein, quel que soit, à partir. Et puis c'est vrai, pour à propos des grands-parents, on peut avoir des petits-enfants élevés dans la même langue que vous, et réaliser quand même qu'ils ne parlent pas du tout la même langue. Donc c'est vraiment la façon dont chacun baigne dans la langue qui fait en fait le chez-soi. Voilà mes remarques à propos de vos expositions.
Bien sûr.
Oui, juste un petit témoignage. Vous avez évoqué donc les exils choisis, forcés, pour des raisons économiques, politiques, voire climatiques. Donc pour des raisons politiques, économiques, voire climatiques. Et moi, ça me faisait penser à un patient que j'ai reçu pendant plus d'un an. On appellerait un migrant maintenant. Et je crois que l'exil, pour lui, c'était sa solution. C'était, bien sûr qu'on pourrait dire que c'était un choix, mais je crois qu'avant tout, c'était une solution, c'était mettre l'Atlantique entre lui et sa famille. Et bon, alors, on peut s'accorder qu'il avait des conditions de venue qui étaient très difficiles. Il a assisté à des gens qui sont passés par-dessus bord. Mais il était destiné effectivement à s'arrêter en Espagne. Et c'est là où je rejoins la question de la langue. En Espagne, tout le monde s'est arrêté. Et lui, il a dit non, je continue parce que je parle français. Et que ma langue, c'est la France. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que vraiment, c'était une solution qui était peut-être différente que tout ce qu'on a évoqué ce soir pour lui.
Une remarque à partir de ce que vous avez dit aussi, c'est que Annie Colette c'est belle, et ça a été dit par d'autres aussi. Je crois que finalement la question de la langue est très variable. Il y a, on peut trouver beaucoup d'exemples en plus de celui que vous avez donné. Il y en a beaucoup d'autres. Et la question, c'est pas tant quand j'évoquais les grands-parents parlant pas la même langue que les petits-enfants, parce qu'on peut le trouver même chez ceux qui parlent la même langue. Moi, j'ai mis l'accent du côté du fantasme du père. Donc, au fond, par rapport à la question de la langue, il me semble que le point fondamental, c'est qu'est-ce qui se passe dans le rapport du sujet au fantasme. D'ailleurs, l'exemple que tu donnes, toi, c'est quelque chose d'un viral au niveau du fantasme. C'est-à-dire qu'on peut passer des années dans un autre pays, mais avec un fantasme d'être resté dans le premier. Et même songer au moment où on va rentrer. Ça ne donne pas la même position qu'avoir la conviction qu'il y a quelque chose de laquelle fondamentalement on est séparé. Et on est séparé de son fantasme, pas tant du pays.
Absolument.
Je voulais peut-être vous proposer, comme je ne sais pas si peut-être j'ai pas tout suivi, mais le terme de deuil, c'est pour moi c'est un instrument précieux pour plusieurs raisons. Dans l'exil, il y a le deuil, dans la ségrégation, pas vraiment. C'est quelque chose d'assez solide, je crois. Et pour illustrer ça, j'ai un exemple, enfin, comme disait lui, c'est, les autres, c'est très variable avec les langues. Par exemple, j'ai quelqu'un, enfin, on partage la même langue maternelle. Mais elle veut que l'analyse soit en français. Et Évidemment, la question, c'est à quoi ça correspond, cette affaire-là? Parce que la personne, ça fait 30 ans qu'elle est en France. C'est que l'affaire de l'exil, comme Louis, tu disais, c'est l'objet, enfin, c'est là où j'introduis la question du deuil, c'est l'objet, d'une certaine façon, l'objet interne qu'on était pour l'autre. Et c'est, disons, c'est la séparation de cet objet-là, le deuil de cet objet-là, qui tranche, qui détermine un peu si on est, enfin, si on a tranché la question de l'exil ou pas. Donc voilà, c'était un peu.
Oui, ce sont les questions qu'il y a entre exil et ségrégation. Sidi, et pour rebondir un peu sur ce que disait Jean-Jacques, je crois que tous les groupes organisent leur propre système de ségrégation, y compris les analystes.
Tout à fait.
Alors,
c'est pour ça que je suis
venu dessus parler. Je te pose la question parce que je ne connais pas bien comment l'IPA organisait l'exil
des
analystes juifs, mais il me semble que ça procède à la fois d'une ségrégation, ce n'est pas tous. Ils ont été choisis. C'est une ségrégation heureuse, mais c'est à partir d'une ségrégation qu'on a pu organiser l'exil de ces personnes et leur sauver la vie.
Faux. Pardon, j'ai pas bien compris la famille. Qu'est-ce que t'es
sauver la vie.
On aura sauvé la
sauver
vie.
La vie, oui.
Ségrégation heureuse.
Et, ouais. Et sauver la psychanalyse aussi.
Ça, je ne sais pas.
Alors, non, on est obligé de répondre là un tout petit peu parce que.
Une petite remarque pour Patricia, j'étais très intéressé par ce que tu disais sur l'exil définitif. Ça m'a évoqué ce que relatait une personne japonaise qui m'expliquait comment les enfants d'expatriés japonais. Quand ils retournaient au Japon après un séjour à l'étranger, ils étaient toujours considérés comme des étrangers.
Ça, c'est vrai de tous les.
Non, je crois que c'est plus particulièrement spécifique au Japon. Le Japon a un rapport très singulier, pas plus par singulier par rapport aux étrangers, donc c'est pas très bien. Et donc, même entre eux, pour ceux qui. Pourquoi ils sont considérés comme étrangers, c'est lié à l'usage de la langue. Les intonations, les expressions idiomatiques qui ne faisaient pas bien, enfin, il y a des choses qu'ils ont manqué pendant leur apprentissage, on pourrait dire ça, l'usage de la langue, comment ça se fait, ils se font différemment que chez nous. Et là, on est une sorte d'exil intérieur.
Oui, non, je voulais juste dire un point là-dessus, il ne faut pas trop la ramener avec cette histoire-là, parce que c'est quand même. C'est quand
le micro,
même.
Le micro.
Oui.
Il sort après.
Non, oui. Je veux dire, il arrive que Lacan dise des bêtises, ça arrive. Et notamment sur cette histoire-là, je crois qu'il faut mettre un petit peu de bémol parce que d'abord.
Mais pourquoi
c'est... Alors oui,
mais parce que il y en a un certain nombre qui sont restés. Voilà. C'est pas vrai. Il y a eu quelques psychanalystes qui s'en sont sortis, mais il faut bien dire que c'est parce que c'est pour des raisons notamment financières, etc., qu'ils ont réussi à s'en sortir. Et Freud, je rappelle que si c'est pas qu'il s'en est sorti, c'est qu'on l'a sorti. C'est pas pareil. Je rappelle quand même que c'est Marie Bonaparte qui est allé le chercher et qui l'a extrait. Donc, bon...
Hein?
Oui, voilà. Non, très clairement, lui-même ne voulait pas. Bon, donc je trouve que c'est quelque chose qui est, disons, au moins discutable. Voilà.
Parce que, il y a l'Institut de Berlin aussi. Il y a l'Institut de Berlin.
Oui, ce qui s'est passé. Oh, ben, l'Institut de Berlin, ils ont effectivement, mais c'est-à-dire qu'ils sont partis. Au moment où effectivement, ils ne sont pas tellement partis en avance par rapport aux autres. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Juste une remarque par rapport à ça. La question de l'IPA est complexe, hein, parce que en 79, au voit pourquoi. Sinon, on cite, on donne toujours le même exemple de comment l'IPA a sauvé 79. Il y a eu un congrès de l'IPA à New York où ils ont parlé des analystes argentins disparus. L'IPA a passé tout ça sous silence. Parce qu'il y a eu des analystes de l'IPA qui sont disparus. L'IPA a décidé, pour des raisons de... Il fallait que la psychanalyse ne soit pas persécutée. On passe tout ça sous silence. Donc, mettre l'IPA comme exemple, c'est un peu aussi embêtant parfois.
Il faut reconnaître, c'est si l'IPA a fait quelque chose qui a sauvé la psychanalyse, il faut le dire. Ça ne veut pas dire que par la suite, elle n'est pas promue des choses qui soient discutables ou qui soient critiquables.
C'est pas vraiment l'IPA qui a. C'est pas vrai.
C'est pas l'IPA. D'accord.
Oui, d'accord. Mais ça, c'est parce qu'il est. C'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ça. Il est furieux. C'est tout à fait dans le motif de son exclusion. Voilà.
Sorry.
On est.
On reprendra la discussion.
Ouais.
Il ne faut pas focaliser sur ça. Ce n'est pas.
Ce n'est rien pour être
très marginal.
Oui. Très polémique.
De la ségrégation et du sens que nous donnons à cette notion. Je voulais interroger les intervenants, que je remercie tous, et en particulier Sidi qui a plus développé ce point, sur cette phrase de Lacan que je cite de mémoire, qui m'a toujours paru un peu difficile à comprendre, disons tout simplement. Où il évoque donc le refus de la ségrégation comme étant à l'origine des camps de concentration. Ce qui, à première vue, paraît une contradiction dans les termes, mais qui, je suppose, doit s'éclairer avec une question de définition. Qu'est-ce qu'il entend là par ségrégation ? Donc ça, c'est une question. Et puis, j'étais intéressée par l'idée de l'exil, parce que je me disais, j'ai toujours pensé que on parle beaucoup de l'exil et de l'idée que nous sommes tous exilés. Nous tous les choses sont tous exilés, donc aucun n'est exilé aussi bien. Donc je me dis, bon, tous sont exilés, mais il y en a qui sont plus exilés que d'autres. Voilà. Alors, ce qui m'a intéressé, parce que ça m'a paru nouveau, c'est, Sidi, ce que tu évoques en citant le livre de Hélène Sixtou, que je ne connais pas, à propos de son livre sur Joyce. L'idée, donc, que Joyce aurait fait de l'exil une citoyenneté. Je voulais te demander ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça. Sur l'exil comme citoyenneté, dans son cas.
Alors. Donc, deux choses, hein. Il y a deux questions que tu as posées seules.
Oui, deux.
Si je me souviens.
Pas des troisièmes après.
Pardon, là, il y a une troisième. Bienvenue. Donc, sur la première question, tu parles d'une. Je n'ai pas en tête la référence à laquelle tu fais.
Je crois qu'il dit à peu près ça. Le refus de la ségrégation est à l'origine des camps de concentration. Et je crois que c'est dans la proposition.
La proposition,
c'est dans la oui. Qui donne l'idée qu'il n'y a pas chez lui une critique de la ségrégation.
Non.
C'est-à-dire qu'il ne l'entend pas du tout comme nous l'entendons nous au moment.
Voilà, exactement. C'est un point sur lequel j'ai souhaité intervenir, que j'ai souhaité préciser. C'est-à-dire que la ségrégation pour Lacan, c'est vraiment un effet de structure et que ce n'est pas du tout quelque chose contre quoi il s'agit d'aller, que c'est au principe même, au fond, c'est lié au mouvement d'universalisation du discours de la science. À partir du moment où il y a un mouvement d'universalisation, le contre-coup, la conséquence de cette universalisation, ce sont des ségrégations qui ramènent donc à des modalités de jouissance ou à des rassemblements qui font que un groupe de sujets ou des sujets ne veulent pas passer à l'un, se dissoudre dans l'universalité. C'est d'ailleurs un petit peu ce que Milner reprend quand il fait la critique de ce qu'il appelle
le tout, hein, l'universel rapide, voilà, facile, contre une bonne compréhension du concept d'universalité. Donc je crois que sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord que nous avons à insister sur ce que Lacan entend par ségrégation et qui ne recouvre absolument pas l'acception commune qui ramène la ségrégation à la discrimination, les formes d'inégalité ou les formes de domination. C'est tout à fait autre chose. Alors, sur Joyce et l'exil comme citoyenneté, il me semble que l'idée de Sixou, c'est quand même de dire que l'exil joycien, c'est une forme d'exil qui, là, concerne, comment dire ça, une tentative d'être un citoyen du monde, au fond, c'est-à-dire que de ne pas ramener sa création ou l'idée qu'il se fait du sujet humain ou de la question de la littérature à sa seule appartenance irlandaise. Il voulait conquérir le monde, et donc, de ce point de vue-là, il devait s'arracher aux particularités de son île. Et ça donne l'idée d'un exil qui est, au fond, sublimé. C'est vraiment un exil d'un autre type que le seul arrachement à une particularité. Voilà, c'est l'idée que je m'en fais, peut-être que... Oui, bien sûr.
Est-ce que je peux donner le micro à Jean-Jacques qui nous réclame?
Avant Jean-Jacques.
Oui, c'était dans la suite.
C'est que je veux dire aussi. Quand Joyce, il termine Stéphane Léraud en disant « Je renonce à ma famille, ma patrie, ma religion », on a l'impression que c'est au-delà d'être citoyen du monde, c'est un renoncement à l'existence de l'autre. C'est-à-dire qu'il se détache à l'existence de l'autre. Il n'y a plus d'autre.
Des figures de l'autre auxquelles il était aliéné. Je ne sais pas si c'est...
Alors, après ça, qui est l'autre, déjà.
Alors, c'est tout à fait dans la suite. Dans la suite, parce que, effectivement, puisqu'on est avec les Irlandais, la question, c'était la différence de l'exil de Joyce avec celui
de
Beckett, évidemment. C'était ça ma question.
Parce que, alors, tu as une idée.
Vague, disons. Non, il y a quelque chose qui est commun aux deux. Effectivement, ça, c'est ce que tu décris. Cet ordre-là, c'est-à-dire, mais il y a une variation.
Ne serait-ce que parce que Beckett va être un auteur français, par exemple. Il va surtout écrire
dans les deux langues.
Oui, mais quand même, il va embrasser ce qui n'a pas du tout été le cas de Joyce. Joyce n'a jamais écrit en français, alors que Beckett passe de l'anglais au français, et ensuite, il a écrit parallèlement dans les deux.
Non, c'est vrai, seulement dans les deux cas, il y a quand même la dimension d'exil, sauf que là on rejoint l'exposé de Armando, c'est-à-dire le corps mort. Et là, il y a un accent particulier dans l'exil, différent. Autant Joyce, en effet, c'est la langue, autant Beckett, c'est la question du corps vivant.
Ouais.
C'est ça qui fait la différence.
Il faut qu'on réponde à Radu sur la question du deuil.
Oui,
je crois que la réponse, c'est oui, mais au fond, ça rejoint ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est que c'est valable pour toute analyse. Il y a dans toute analyse la dimension d'un deuil par rapport au fantasme. Donc il y a une dimension de laisser tomber l'objet qu'on était pour l'autre. Donc de ce côté-là, la réponse est oui, il y a un deuil, mais pas spécifique aux exilés. La question plus fondamentale, il me semble, il faudrait voir un peu plus cliniquement comment certains sujets ils ont fait ce deuil. Et en même temps, il garde la question, est-ce que je vais rester ici toujours ? Donc il y a, au-delà du deuil, une dimension d'un laisser-tomber qui me semble que ça va au-delà de l'élaboration du deuil.
On peut se demander quand même si, lorsque cette question du retour n'est pas tranchée, si on peut parler d'exil.
C'est quoi? On reste à la frontière.
Est-ce que je vais
parler?
Est-ce que 11h07. On vous remercie et on pourra continuer à discuter sur le sujet de l'ordre.
Ah, ouais. On a fait ça.